Bonsoir Tara Stegel.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le patron de la CGT affirme que François Hollande n'a plus la majorité dans le pays et veut voir le chef de l'État. Nous entendrons des échos de la manifestation parisienne. Nous irons dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et nous tenterons de comprendre comment l'Élysée et Matignon se positionnent dans cette crise. Dans cette édition également, Areva qui a rompu ses discussions avec son client en Finlande au sujet de l'EPR qui a 9 ans de retard. Et puis des avocats français qui rentrent de Turquie où deux de leurs confrères sont emprisonnés. 18h20 du Grain à Moudre avec vous, Hervé Gardette.
Les militaires n'ont-ils que le droit de se taire? Nous allons poser la question à deux généraux, Vincent Desportes et Benoît Durieux, et à un ancien ministre, Gérard Longuet.
À tout à l'heure. Pas énormément de monde dans la rue ce jeudi, nouveau jour de manifestation, mais un mouvement présent dans un très grand nombre de villes et qui a parfois dégénéré. Sur le plan politique, le ton est encore monté d'un cran, nous allons le voir dans un instant. Mais d'abord donc ces manifestations un peu partout, Valenciennes, Calais, Saint-Nazaire, Paris, La Rochelle, Bordeaux, je pourrais citer bien d'autres villes. Parfois les rassemblements ont été sauvages à Caen et à Nantes. Des centaines de salariés ont bravé les préfectures qui avaient interdit certaines manifs. À Cherbourg, l'usine de sous-marins nucléaires a été totalement bloqué pendant plusieurs heures, c'est une première. Évidemment, la CGT a mobilisé du côté des dépôts de carburant et des raffineries. On va revenir sur les centrales nucléaires également. À la Fosse-sur-Mer, une voiture qui voulait forcer un barrage a blessé grièvement un militant dont les jours, cela dit, ne sont pas en danger. Et puis à Paris, bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Tara.
À Paris, là aussi, le cortège n'était pas véritablement massif. Quelques incidents ont émaillé le parcours à l'arrivée. Place de la Nation, la police annonce 12 interpellations. Mais ce qui frappe Anne-Laure, c'est la détermination des grévistes.
Oui, même si c'était un assez modeste cortège, effectivement, loin des 100 000 personnes annoncées par FO, et un cortège dont la grande majorité des bataillons émanait des fédérations, de la CGT. Le syndicat assume désormais une stratégie sur deux jambes, une partie de ses forces dans la rue, l'autre dans les entreprises, avec pour l'instant plutôt un soutien fort de l'opinion, en tout cas selon les derniers sondages. Michel est militant à la CGT Forêt, pour lui, peu importe la taille du cortège.
La grève est devenue de plus en plus un phénomène par procuration. Les gens soutiennent le mouvement mais veulent pas s'y afficher. Dans ce conflit, il faut une stratégie quand même pour essayer d'atteindre le but qui est le retrait de la loi. Jusqu'à présent, le gouvernement ne nous a pas entendus. Est-ce qu'on doit s'en tenir à ça? Nous pensons qu'il faut continuer. On est prêt à continuer. On trouve que cette stratégie qui s'installe dans la durée, c'est une bonne chose.
Disséminés dans la manifestation, les lycéens et étudiants qui formaient le gros des troupes en mars dernier sont toujours là, quoique moins nombreux. Eux ont vu avec plaisir arriver les premiers blocages de raffineries.
Là, on est passé à une étape supérieure où les manifs, ça suffit plus, on le voit bien. Quand on marche dans la rue et qu'on crie, même si on a quelques problèmes avec la police et que ça fait un peu de bruit, etc., c'est pas ça qui fait plier le gouvernement, on l'a bien vu avec le 49-3. Donc maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure et cette crainte de la pénurie, etc., ça amène forcément quelque chose au mouvement et c'est assez génial, c'est les travailleurs, donc c'est ça qui est cool.
Quant à Philippe Martinez, après la valse hésitation du gouvernement depuis hier, il prenait un certain plaisir à jouer l'embarras.
Quelle est la position du gouvernement aujourd'hui? Est-ce que c'est celle de M. Sapin? Est-ce que c'est celle de M. Valls? Est-ce que c'est celle de M. Leroux? Ça nous met dans l'embarras pour savoir à qui il faut s'adresser pour essayer d'avancer. Pendant 2 mois, il y a eu des mobilisations, on s'est moqué de nous, et puis pas de réponse. Les salariés, quand on les écoute pas, ils choisissent de durcir le mouvement, c'est ça la réalité.
Du petit lait donc pour le leader de la CGT qui sera dès ce soir en intersyndicale pour préparer la suite.
Merci Anne Lorchouin, on vient de l'entendre à votre micro. Les militants et le patron de la CGT sont bien décidés à amplifier la mobilisation. François Hollande n'a plus la majorité dans le pays, vient de dire en substance Philippe Martinez. Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir.
On a le sentiment que le duel se joue désormais entre le nouveau leader de la centrale syndicale proche des communistes et le chef de l'État. Philippe Martinez a demandé clairement à être reçu par François Hollande, un peu comme s'il était l'unique interlocuteur à présent.
Oui, cela symbolise bien le mano à mano qui s'est installé, presque dans l'intérêt de chaque camp d'ailleurs. La CGT veut montrer qu'elle est en pointe sur la contestation. L'exécutif veut montrer que cette contestation n'est que le fait que d'un seul syndicat radicalisé, selon les termes de l'entourage présidentiel. La demande de Philippe Martinez d'être reçu à l'Élysée rencontre d'ailleurs une fin de non-recevoir. Ce sont le Premier ministre et la ministre du Travail qui sont responsables du dialogue, si la CGT veut le dialogue, ajoute-t-on à l'Élysée. Alors dans ce rapport de force, force qui peut durer. N'oublions pas que le calendrier parlementaire ne permet pas d'adopter le texte avant fin juin, début juillet. Le gouvernement en est réduit à regarder les rares signes positifs pour lui. D'abord, il y avait peu de grévistes et de manifestants aujourd'hui. Il n'y a pas de grève dans le privé, tente de se rassurer l'entourage du Premier ministre. Ensuite, Matillon veut croire qu'une brèche s'est installée entre la CGT et Force ouvrière, le premier demandant le retrait pur et simple du texte, le second étant considéré comme plus ouvert à la discussion. Il faut malgré tout observer que la journée a été marquée par des déclarations contradictoires au sein du gouvernement. Michel Sapin s'est prononcé pour un réaménagement de l'article 2 de la loi, celui qui est le plus rejeté par les opposants à cette loi travail. Quelques minutes plus tard, Manuel Valls a recadré son ministre en déclarant précisément l'inverse. Jusqu'à présent, le gouvernement avait reculé, déjà, sans le dire, mais en relatif bon ordre, notamment sous la bannière du compromis, mot employé à de nombreuses reprises lors de la version 2 du texte, c'était en mars dernier. Cette fois-ci, c'est une cacophonie qui a donc servi d'argument au syndicat.
Merci Frédéric Saïs. Côté blocage, 20% des stations-service sont en rupture. Du côté des centrales syndicales, le chiffre, là aussi, est spectaculaire, puisque la grève a été votée dans les 19 centrales françaises. 8 ont décidé d'abaisser leur production. On l'aura compris, cette grève dans les centrales signifie une diminution de la production d'électricité, mais le réseau étant européen, il ne devrait pas y avoir de coupure de courant, car nos voisins vont pallier ces baisses. Cela dit, savoir que l'ensemble des centrales fonctionne au ralenti est impressionnant. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Tara.
Vous revenez du site de Nogent-sur-Seine, la centrale qui a lancé le mouvement dès hier soir. Sur place, la production est passée de 1300 MWh à 350 MW seulement. C'est un mouvement surtout symbolique, puisque je l'ai dit, il n'y aura pas de blackout. Mais c'est aussi un mouvement très soutenu localement, David, et pas seulement par les militants de la CGT.
Oui, au milieu de la musique, des palettes et des roues de tracteurs en feu, Paul et ses amis ont fait du chemin pour voir ce spectacle. Ils travaillent tous près de Troyes et ont fait près d'une heure de trajet pour venir manifester. Ils ne sont pas venus ici à l'appel de la CGT. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas la CGT qui est dans la rue, c'est le peuple. Non, ils sont venus ici pour représenter les précaires, les CDD et tous ceux qui ne peuvent pas manifester de leur plein gré.
Si on fait rien aujourd'hui, à un moment donné, demain, ils vont nous dire, voilà, on va retirer ça, demain, on va retirer ci. Et voilà, tout ce qu'on a pu gagner, les gens ont lutté, et bien, on sait ce qu'on fait.
Ce n'est pas la première manifestation contre le projet de loi travail. Ils ont commencé il y a plusieurs mois déjà, mais le rassemblement sur le site de Nogent-sur-Seine avait un goût particulier pour Jérémy, surtout après les dernières annonces du Premier ministre.
Sur la manière d'imposer la loi, il n'y a pas eu de demi-mesure de leur part. Je ne vois pas pourquoi nous, le peuple, on devrait encore faire des demi-mesures, faire des concessions pour toutes ces petites personnes qui vivent dans leur petit monde doré à des années-lumière du nôtre et où ils se moquent complètement de nous, quoi. Donc il y a un moment, il faut savoir aussi leur dire stop, on est là, on est présent, ce que vous voulez faire, on n'est pas d'accord. Et c'est même pas, on va essayer de parlementer, puisqu'ils ne veulent pas parlementer. C'est pas nous qui ne voulons pas, c'est eux qui n'ont pas voulu parlementer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas essayer d'avoir un discours cohérent et d'essayer d'avoir une communication avec eux et puis d'aller à demi-mesure. Maintenant, c'est stop, quoi.
Comme les autres, Michael pense que cette grève est une guerre d'usure contre un gouvernement de gauche qui trahit son propre camp. En plus du retrait du projet de loi, il manifeste pour les acquis sociaux obtenus par ceux qui se sont battus avant lui.
Se battre pour nos acquis sociaux, ils l'ont fait avant. Si on ne le fait pas maintenant, c'est comme leur cracher dessus sur tous les efforts qu'ils ont faits. Ils ont sacrifié leur vie, leur famille, leur avenir pour nous. Et si on ne fait pas ça en retour pour ceux d'après, qu'est-ce que nos enfants penseront de plus tard? Ils vont nous prendre pour des gens qui se sont soumis à un gouvernement qui nous crache au visage depuis des années. Et ça, pour moi, c'est hors de question.
Et pour eux, peu importe qu'ils gagnent moins d'argent les mois où ils font grève, l'important est ailleurs. Et comme le mouvement social a été reconduit demain sur la centrale de Nogent-sur-Seine, ils reviendront pour continuer le combat.
Un reportage signé David Ravier, merci. La CGT qui est, on peut le rappeler, le premier syndicat en France, 27% des voix aux élections professionnelles. La CGT se sent en position de force. Voilà peut-être pourquoi elle a osé un acte assez rare à l'endroit de la presse. Les quotidiens ont été priés de bien vouloir publier aujourd'hui une tribune de Philippe Martinez. Et ceux qui n'ont pas publié cette tribune n'ont tout simplement pas été distribués ce matin. Bonsoir Abdelhakel Idrissi.
Bonsoir.
Un seul journal en kiosque donc ce jeudi, l'unique qui a accepté de relayer la parole de la CGT à savoir l'Humanité, les autres journaux crient à la censure.
En bas de la pleine page, le journal L'Humanité y écrit que cette tribune a été publiée bien volontiers. Pour les autres journaux, c'est du chantage et c'est inacceptable. La décision du syndicat du livre a été prise vendredi en Assemblée Générale. Le SPQN, le syndicat de la presse quotidienne nationale, a été sollicité dans la foulée. Mais après en avoir débattu entre patrons de rédaction, il a été décidé de refuser. Et le blocage de l'apparition des journaux s'apparente à un déni de démocratie, selon Denis Bouchèze, président du SPQN.
C'est même attentatoire à la liberté d'expression à partir du moment où on dénie la fonction même de la presse qui est donc sa capacité à traiter l'information, et qu'on essaie de la dévoyer vers une fonction de communication, et qu'à partir du moment où elle refuse d'une manière générale cette fonction de communication, on la bloque, oui, effectivement, c'est littéralement attentatoire à la liberté d'expression et à la capacité, encore une fois, à permettre à la presse d'effectuer sa mission principale, qui est juste d'informer les gens.
Du côté du syndicat du livre, on ne voit pas où est le problème. Dans un communiqué diffusé hier, on lit que la publication de la tribune de Philippe Martinez avait pour but, je cite, « d'éclairer les 18 millions de lecteurs de la presse écrite sur les réalités du mouvement social ». Denis Lourdez, secrétaire général du syndicat CGT du livre.
Il ne s'agit ni d'une exigence, ni d'un dictat. On a, en fin de semaine dernière, proposé à tous les quotidiens, et nationaux, et régionaux, et départementaux, de donner une expression à Philippe Martinez pour qu'il exprime les positions de la CGT. En fait, ceux qui sont pris en otage, on va vous le dire, c'est pas le SPQM. C'est nous qui sommes pris en otage par un gouvernement qui veut appliquer une loi et qui passe antidémocratiquement avec l'article 49.3.
Didier Lourdez, qui était l'invité de nos confrères ce matin de France Inter. En attendant, au niveau local, il n'y a pas eu de blocage des journaux régionaux et on trouve la tribune dans Sud-Ouest, Midi Libre ou encore Paris-Normandie. Mais le syndicat de la presse quotidienne régionale assure qu'il n'y a pas eu de chantage. Effectivement, d'autres titres ne publient pas le communiqué et sont pourtant disponibles.
Merci Abdelhakel Idrissi. Dans l'actualité, encore ce jeudi, ce vote en commission puis dans l'hémicycle d'une proposition qui émane du Front de Gauche. Les députés ont décidé d'encadrer de façon un peu plus contraignante la rémunération des patrons. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Oui, bonsoir.
C'est un amendement qui fait suite aux émoluments astronomiques que touchent certains PDG, comme, je vais le dire au hasard, Carlos Ghosn et ses 7,2 millions d'euros chez Renault.
C'est cela, et c'est l'affichage de cette rémunération qui a relancé la polémique. Les actionnaires de Renault avaient repoussé ce montant de plus de 7 millions d'euros. Un vote négatif donc des actionnaires qui n'avaient pas conduit le conseil d'administration à corriger la copie. Pas obligé, pas contraint. Alors dans la foulée, Emmanuel Valls avait dit sa volonté de légiférer. Est alors rentré en scène le MEDEF qui, par la voix de Pierre Gattaz, avait lancé le projet de passer au vote dit impératif, le CNP impératif, c'est-à-dire l'obligation faite au conseil d'administration de tenir compte du vote des actionnaires, c'est-à-dire de les écouter et de revenir avec une contre-proposition au cas de vote négatif. Autant dire un pas en direction d'un pouvoir accru des actionnaires. Mais ce n'est pas contraignant, les administrateurs ne sont pas obligés d'exécuter leur demande. Avec l'amendement qui vient d'être adopté, eh bien on franchit une étape. Maintenant, ce sont les modalités qui vont lui conférer une force plus ou moins contraignante. Pour l'heure, l'amendement adopté ne prévoit pas le principe d'une limitation de 1 à 20 des écarts de rémunération en entreprise. C'eût été prendre, semble-t-il, un risque d'inconstitutionnalité, mais la question d'un plafonnement, elle reviendra sans doute au cours des examens à venir sur ce texte.
Merci Jean-Marc Chardon. En bref, le bureau du Sénat renonce à poursuivre Frédéric Oudéa pour faux témoignage. Le patron de la Société Générale, pris dans la tourmente des Panama Papers, était venu s'expliquer devant les sénateurs le mois dernier sur les sociétés offshore de sa banque. Il s'est visiblement bien défendu. Rien ne va plus entre Areva et ses interlocuteurs finlandais. Le litige porte évidemment sur la construction de l'EPR que le géant français du nucléaire est en train d'édifier en partenariat avec l'allemand Siemens en Finlande. Le site aurait dû être livré en 2009, mais il accusera au moins 9 ans de retard. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir.
On imagine bien qu'entre le constructeur et son client, le climat doit être très tendu depuis un bon moment, mais on a appris aujourd'hui que les discussions entre Areva et TVO ont été totalement rompues.
Oui, les deux groupes cherchaient une solution depuis plusieurs mois. D'après le groupe finlandais, la rupture des discussions vient du côté français. Areva vient tout juste d'annoncer que la porte restait ouverte pour négocier avec l'opérateur finlandais. En tout cas, chacun se rejette mutuellement la responsabilité des retards et des surcoûts du réacteur. Il devait entrer en fonction en 2009. Sa mise en service est désormais repoussée à 2018. TVO et Areva ont même porté ce dossier devant la Chambre de commerce internationale en vue d'un arbitrage. Le finlandais demandant 2,6 milliards, le consortium franco-allemand 3,5 milliards. Pour Lionel Tacoen, directeur de la lettre géopolitique de l'électricité, le projet de réacteur était bancal dès le départ. Donc si responsabilité il y a, selon lui, elle est partagée.
Il était, paraît-il, question de construire ce réacteur en 4 ans. C'était totalement invraisemblable. Que Areva l'ait proposé, c'était une erreur ou une faute, hein, mais que TVO, qui avait l'expérience du nucléaire, l'ait accepté, il partage la responsabilité avec Areva. Autrement dit, dès le début, il y avait, je vous dis, un péché originel. TVO reproche à Areva de ne pas avoir une maîtrise suffisante du chantier. Areva, lui, reproche une lecture stricte du contrat et les conditions de sûreté de finlandaise. Moi, mon avis, c'est que c'est une péripétie.
Une péripétie avec des conséquences importantes. Ce dossier freine le plan de sauvetage d'Areva par EDF, qui doit racheter, d'ici la fin de l'année, son activité réacteur nucléaire.
Merci beaucoup. On va maintenant ouvrir le sujet sur la troisième semaine du procès des deux anciens bourgmestres du Rwanda qui sont jugés aux assises à Paris pour génocide, aussi pour crime contre l'humanité. Ces deux hommes sont soupçonnés d'avoir directement participé à des massacres à Karabando, la commune qu'ils administraient à tour de rôle dans l'est du Rwanda. Bonsoir Catherine Dutu.
Bonsoir.
Catherine, les débats se sont concentrés aujourd'hui sur le rôle du plus jeune accusé, Octavien Ngenzi, au début des massacres. Il s'est longuement décrit comme complètement dépassé par les événements en ce début d'année 1994.
Les quatre policiers municipaux que j'avais à ma disposition ne pouvaient pas arrêter une population dépassant le 20 milliers, explique posément Octavien Ngenzi, debout dans le box des accusés, et d'ajouter, dans un langage administratif dont il ne se départ pas depuis le début du procès, qu'il ne pouvait pas recruter de policiers supplémentaires. J'aurais dépassé le budget communal, je risquais d'être sanctionné. Vous n'aviez pas les forces ni les moyens nécessaires, je le comprends, indique Maître Paruel, l'un des avocats des parties civiles, mais lorsque l'abbé de Kabarondo vous a dit craindre pour la vie des Tutsis qui s'étaient réfugiés dans l'église de la commune, plus de 3000 personnes selon son décompte. Il vous a demandé d'organiser des patrouilles d'autodéfense et vous avez refusé. Pourquoi ? Interroge l'avocat. Mais si j'avais autorisé des civils, Hutus et Tutsis, à faire des rondes autour de l'église, si ces Tutsis avaient ensuite commis des massacres, j'aurais été condamné, déclare bras-ballant Octavien Ngenzi, l'ancien bourgmestre qui risque aujourd'hui la perpétuité pour génocide et crime contre l'humanité. Il se défend âprement face aux témoins auditionnés pendant l'instruction, des témoins qui ont affirmé qu'Octavien Ngenzi avait sciemment concentré les Tutsis dans l'église de sa commune entre le 7 et le 12 avril 1994. Des centaines de personnes ont été tuées le 13 à coups de machettes et de gourdins notamment. Jamais je n'aurais pu imaginer que quelqu'un qui porte un chapelet dans sa poche tue quelqu'un dans une église. Je pensais comme les Tutsis que les églises protégeraient des massacres comme dans le passé, explique l'accusé, la gorge serrée. L'impensable s'est finalement produit.
Merci Catherine Dutu en direct des Assises à Paris. En bref, le drame des migrants en Méditerranée et un nouveau naufrage au large de la Libye. Les gardes-côtes italiens ont d'abord parlé de 80 morts, puis plutôt de 20 à 30 victimes. Des migrants dont la route passe souvent par la Turquie, laquelle a signé, on le sait, un accord avec l'Union européenne afin de tenter de limiter le flux des départs de réfugiés vers l'Europe. En retour, Ankara exige une exemption de visa pour les ressortissants turcs. Pour l'instant, les négociations sont en cours et au G7, qui se tient au Japon en ce moment. Le président de la Commission européenne sur place a rappelé que Bruxelles continuerait à exiger que la Turquie respecte ses engagements, y compris en matière de droits de l'homme, avant de lever cette obligation de visa pour les Turcs. En Turquie, justement, on ne peut pas dire que le président Erdogan ménage l'état de droit et la justice ces derniers temps. Le syndicat de la magistrature français parlait même d'une épuration tout récemment avec 680 magistrats suspendus. Les avocats, eux aussi, sont visés. Plusieurs barreaux, ceux de Paris, Madrid, Genève ou Buenos Aires ont manifesté leur soutien à leurs homologues turcs. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Vous venez de rencontrer, Nadine, trois avocats français qui sont de retour d'Istanbul.
Jennifer Alter, Ruchen Etak et Martin Pradel, avocats du barreau de Paris, ont pu, contre toute attente, rendre visite à deux de leurs confrères turcs emprisonnés à Istanbul. Eyşe Asinikli et Ramazan Demir se retrouvent derrière les barreaux pour avoir saisi la Cour de justice européenne pour dénoncer des violations des droits de l'homme en Turquie. Après un mois et demi de détention, leur demande de remise en liberté a été balayée hier. Ruchen Etak.
En fait, les conditions sont extrêmement difficiles, même s'ils se sentent très soutenus. Ils avaient reçu, je crois, 3500 cartes postales venues de partout, d'Argentine comme d'Haïti, des barreaux français. Ils ont bien conscience qu'en fait, c'est vraiment de l'intimidation qui pèse aussi sur eux. C'est pour aussi intimider les autres avocats, les confrères, en fait, pour qu'ils ne puissent pas agir dans les prisons, pour qu'ils n'aillent pas rendre visite à leurs clients, pour qu'ils ne prennent pas des dossiers sensibles. Donc ça, ils en ont vraiment conscience. C'est la raison pour laquelle ça les fait aussi tenir. En Turquie, apparemment, il y a 500 avocats qui sont poursuivis. Pour le moment, nous savons qu'on a deux confrères qui sont en détention.
On ne compte plus les catégories de la société turque touchées par des accusations de terrorisme ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Policiers, fonctionnaires, juges, universitaires, reporters sont entre guillemets criminalisés car ils s'opposent au régime autoritaire du président Erdogan. Martin Pradel.
Quand on a arrêté Ramazan Demir et Aïcha Sénikli, on a arrêté d'autres avocats avec eux. Les charges qui pèsent contre eux, on leur reproche d'avoir été des avocats qui ont défendu leurs clients. On leur reproche de l'avoir fait savoir, d'avoir soutenu leurs clients, y compris publiquement, en dehors des tribunaux, en disant que la Turquie avait commis à l'encontre de leurs clients, des violations à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ça qu'on reproche à ces avocats pour dire d'eux qu'ils sont des terroristes, parce que finalement, aujourd'hui, c'est toute dissidence, c'est toute critique de la société ou du gouvernement qui devient un indice de terrorisme. Que ce soit les partis politiques d'opposition, les journalistes, les académiciens, les sociologues, si ces lectures de la société sont regardées comme divergentes, simplement, elles vont être criminalisées et les sociologues en question vont être poursuivis, vont être interpellés, vont être emprisonnés pour qu'ils ne donnent plus ces versions divergentes de la société.
La prochaine audience sur le fond pour les deux avocats turcs est fixée au 22 juin. D'ici là, les deux détenus espèrent que les mobilisations en leur faveur permettront leur remise en liberté.
Un dossier signé Nadine Epstein, de la pluie et des éclaircies au programme demain à 22h. Ce sera Stanislas Vazak pour les infos.